Seigneur, à nouveau, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la joie, pour le bonheur de te connaître, pour le privilège de pouvoir être en relation avec toi, de pouvoir communiquer avec toi, de pouvoir t'entendre nous parler, et notamment par ta parole, Seigneur, que nous ouvrons parfois un peu machinalement. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir accueillir cette parole qui vient de toi, qui parle de toi, qui parle de nous, qui parle de cette relation à laquelle nous aspirons au plus profond de notre cœur. Et nous savons que pour ça, nous avons besoin de ne pas l'aborder simplement avec notre tête, notre intelligence, mais aussi avec nos tripes, avec notre cœur, pour qu'elle nous mette en mouvement. Et ça, c'est l'œuvre de ton Saint-Esprit, Seigneur. Alors nous en appelons à ton Saint-Esprit maintenant. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire avec le retour. On peut le débrancher peut-être, c'est possible ou non, je sais pas. Il sert à quelque chose. Bon, c'est mieux. Merci. Bouge plus. Bon, c'était intéressant ce temps de louange et de sainte scène, j'ai trouvé, parce qu'effectivement, il y avait à la fois de l'adoration, de la louange, on était devant notre Dieu, et puis en même temps, je trouvais qu'on sentait planer une petite inquiétude. Voilà, on a entendu parler de Judas, on a entendu parler de souffrance. Samuel s'est préoccupé de savoir si c'était pas un peu plombant pour un dimanche du mois d'août. Alors si c'était plombant, eh bien accrochez-vous parce que on n'a pas fini de descendre. Mais j'aime bien parce que effectivement, c'est sans doute pas des choses qu'on aborderait si on choisissait nous-mêmes nos sujets. Au mois d'août, c'est les vacances, tout ça, il fait chaud. On a envie d'un peu de légèreté. Donc, je me dis que si le Seigneur nous a guidés dans ce sens-là, c'est probablement qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce qui va être partagé ce matin. Voilà, le teasing fait. Vous allez être vite dans le bain. J'ai ramené ce petit livre. Enfin, je l'ai ramené, il est là-haut en vrai. Mais voilà, ce petit livre, c'est un des petits livres, je dirais, en dehors de la Bible, évidemment, qui m'a le plus marqué dans ma vie chrétienne. Et c'est un livre qui s'appelle « Les adieux » d'Adolphe Monod. Voilà, c'est un petit bouquin. S'il y en a qui sont intéressés, je peux le prêter. Par contre, faut le ramener parce que il date de 1861. Je sais pas si on le retrouve encore édité, mais en tout cas, moi, j'aime bien ma version. Mais je peux le prêter sans souci. Adolphe Monod, c'était un pasteur français du 19e siècle. C'est un tout petit bouquin, comme vous voyez. Alors, c'est écrit petit aussi, hein, faut avoir des bons yeux quand même. Et c'est un livre qui a cette particularité que c'est pas l'auteur qui l'a écrit lui-même. Ce qui s'est passé, c'est que durant les 6 derniers mois de sa vie, alors qu'il était gravement malade, il a prêché tous les dimanches depuis son lit de mort, et des gens venaient l'écouter chaque dimanche. Et ces gens ont pris des notes. Et ce sont eux qui ont décidé d'éditer ce petit livre après sa mort. Et donc la particularité et la force de ces prédications, parce que ce sont des prédications, c'est qu'elles ont été données par un homme souffrant, un homme mourant. Il était malade, il souffrait beaucoup, mais il a reçu cette grâce de pouvoir prêcher jusqu'au bout à ses visiteurs. Il prenait la Sainte Cène ensemble, comme on l'a fait ce matin. Et ensuite, allongé dans son lit, Adolphe commençait à partager l'évangile avec les personnes qui venaient le visiter. Les derniers dimanches de sa vie, Adolphe était si faible et souffrait tellement que ses visiteurs devaient rester debout à côté de lui pour pouvoir entendre ce qu'il disait, ce qu'il susurrait. La souffrance et la mort sont l'un des plus grands mystères de la vie, y compris de la vie chrétienne, en dépit de l'espérance qui est la nôtre. Voir des êtres aimés souffrir et mourir, c'est l'expérience la plus troublante, la plus déroutante que, à titre personnel, il m'ait été donné de vivre. Et je sais que nous souffrons et que nous mourons en conséquence de l'entrée du péché dans le monde. Je le sais, Voilà, ma tête le sait. Mais le savoir, ça n'allège pas ma peine. Je sais que on souffre pas la moitié de ce que nous méritons du fait de notre péché, de notre rébellion contre Dieu. Ça aussi, je le sais. Mais ça non plus, ça n'allège pas ma peine. Je sais que par la foi en Jésus, on est sauvé, que la mort ne fait rien de plus que de nous emmener devant le Père, à la maison céleste, où Jésus nous a préparé une place, et ça m'encourage évidemment, mais ça n'allège pas non plus ma peine ici-bas. Ce que je vais partager à présent avec vous, ce sont pas tant les prédications d'Adolphe Monod que les vérités que je pense avoir trouvées dans ses paroles. Et pour commencer, on va lire dans nos Bibles une affirmation qu'on peut recevoir avec beaucoup de joie ou avec d'épouvantables frissons selon la manière qu'on a de la comprendre. On la trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et c'est le verset 28. Alors, je vais ouvrir ma Bible quand même, Romains 8, 28, mais je serais curieux de savoir s'il y en a qui, parmi vous, connaissent ce verset par cœur. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est Romains 8, 28 ? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'ouvrir ma Bible. On l'a, effectivement. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça nous parle de ce qu'est être un disciple du Christ. On reçoit cette affirmation avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. On la met sous cadre, on la place en évidence dans nos maisons, on la partage pour encourager les gens. Et la vérité, c'est que c'est effectivement un motif de grande joie. Toute chose concourt à notre bien. C'est une grande bénédiction, c'est une grande consolation. Mais le travers, peut-être, de ce verset, si on s'arrête à ce verset, c'est qu'on peut être surpris, du coup, quand vient la souffrance, quand viennent le deuil, l'angoisse dans notre vie. On lit ce verset à nouveau, et au milieu de la souffrance, des frissons nous traversent. On se dit vraiment, vraiment, là, les douleurs par lesquelles je passe concourent à mon bien. Vraiment, ces difficultés concourent à mon bien. Vraiment, ce qui arrive à mon conjoint, à mes enfants, concourt à mon bien. On sent qu'il y a une légère tension. On lit la Bible, on arrive au livre des Actes, à l'histoire d'Étienne, et on se dit, c'est vrai que sa lapidation concourt à son bien, à Étienne ? Alors c'est l'Écriture, évidemment, qui répond à ces questions, et elle ne tarde pas à le faire, elle le fait au verset suivant. Et là, qui connaît Romains 8, 29 ? C'est plus dur, hein ? C'est normal, je ne serais pas capable de vous le sortir non plus comme ça, on connaît bien Romains 8, 28, mais Romains 8, 29 est hyper important pour bien comprendre Romains 8, 28. Le verset 29 dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Alors c'est un peu plus alambiqué, on comprend moins à première lecture, mais ce qu'on lit là, c'est que le bien pour Dieu, c'est que ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire nous, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Pourquoi ? Pour que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc on a là une définition un petit peu plus précise de ce qu'est fondamentalement être disciple du Christ, c'est être fait semblable à son image. Alors ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que si Jésus est ressuscité, et il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Ça veut dire que si Jésus a fait des miracles durant son ministère, nous aussi, par la puissance du Christ qui vit en nous, nous pouvons faire des miracles, en son nom, bien sûr. Nous pouvons contempler les jours de gloire du Seigneur, nous pouvons contempler sa victoire finale, et étant prédestinés à être semblables à lui, nous savons que nous partageons déjà cette gloire et cette victoire. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Toutes ces choses, toutes ces bénédictions sont d'évidence des choses qui concourent à notre bien. Le Christ ressuscité est notre Sauveur, le Christ puissant est notre Sauveur, le Christ miraculeux est notre Sauveur. Et maintenant, je vous emmène dans un autre lieu qui qui est le jardin de Gethsémani. Dans le jardin de Gethsémani, vous arrivez et vous rencontrez un homme à genoux qui prie et qui est à tel point sous pression qu'il en transpire du sang. Vous voyez un homme qui va souffrir plus qu'on ne peut l'imaginer et qui est terriblement angoissé. Un homme qui prie pour que la coupe amère qu'il va devoir boire s'éloigne de lui. Et je crois que nous devons nous rappeler que cet homme aussi est notre sauveur. Ni plus ni moins que le Christ ressuscité, puissant, qui fait des miracles. Cet homme, dans toute sa souffrance, dans toute son angoisse, est aussi notre sauveur. On doit s'en rappeler parce que si Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, alors la souffrance et les larmes ne sont au final pas si surprenantes quand on regarde ce qu'a été sa vie. La question, il me semble, est plutôt comment comprendre ces moments de souffrance? Quels sens ont-ils? Comment réagir à ça? Où trouver la force pour les traverser? Et puis une autre question est la suivante. Si Dieu permet que nous passions par la souffrance, et si toute chose concourt à notre bien, alors est-ce qu'il faut prier pour être guéri? Est-ce qu'il faut prier pour être guéri? La réponse, elle est assez simple. Jésus a prié pour que la coupe amère s'éloigne de lui. Il l'a fait, il a prié pour ça. Paul a prié pour que Dieu lui ôte les chardes qu'il avait dans la chair. Et Dieu parfois le fait. Dieu parfois fait ce miracle d'intervenir. Alors prions. Cependant, et c'est là qu'arrive évidemment la partie la plus difficile à accepter, le plus important n'est pas notre guérison physique. À sa prière, Jésus ajoute « Ta volonté, Seigneur, et non la mienne ». Et là, on se trouve au cœur du problème. Ici se trouve le but de la vie chrétienne. On aspire tous, évidemment, à nous sentir bien dans cette vie. Mais à la fin, ce qui compte, c'est que se fasse la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que nous soyons faits semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est ça, sa volonté. Ce qui importe, c'est que Dieu glorifie son nom à travers nous. Le chrétien mature, je dirais, trouvera sa joie ici, et j'emploie ce terme de mature avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai conscience de ce que je suis en train de partager là, mais il trouvera sa joie ici précisément dans la glorification du Père, quoi qu'il arrive dans sa vie. Et je sais que je marche là sur des œufs, c'est assez épouvantable d'être à ma place tout de suite, je vous le dis, parce que je veux que vous sachiez que ce que je viens de dire, je le dis vraiment avec toute l'humilité possible. C'est évidemment tellement facile de parler, de faire la volonté de Dieu quand on n'est pas éprouvé outre mesure, quand on est à une heure et demie de partir en vacances dans un endroit fantastique, ce qui est mon cas, voilà, si vous ne le saviez pas, on part bientôt. Voilà, que tout va bien, que la santé suit. C'est évidemment très facile de parler, de faire la volonté de Dieu. Je vous promets que j'en ai conscience. Et si je ne devais ne parler que ce dont je me sens capable, je n'aurais évidemment pas prêché sur ce thème. Si je prêche sur ce thème, c'est parce que je sais qu'ici se trouve une vérité au sujet de la souffrance. Et je prie le Seigneur pour moi-même, pour qu'il me donne la force de la vivre en pleine conviction si un jour je dois effectivement passer par ce chemin-là. J'espère qu'il me donnera cette force de dire, comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Il faut préciser aussi que la souffrance n'est pas non plus une fin en soi. C'est pas parce que Jésus a souffert que nous aussi, nous devons souffrir. Ce que nous avons à partager avec lui, ce n'est pas la souffrance, c'est cette volonté farouche, inébranlable, je dirais même, de glorifier le Père en tout, dans la santé, comme dans la maladie, dans la vie, comme dans la mort. Mon désir le plus profond, c'est qu'en arrivant à la fin de notre vie, on puisse dire comme Jésus, tout est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire j'ai accompli toute œuvre donnée par le Seigneur, j'ai rempli ma mission sur la terre, je suis resté fidèle jusqu'au bout, et qu'on puisse le dire même si on a eu à passer par la croix, nous aussi. La souffrance à vue humaine est incompréhensible. Penser qu'elle peut servir au bien, je crois vraiment, est hors de notre portée. Sur des petites choses, peut-être, on peut comprendre, voilà, les choses finalement tournent bien et on se dit, ah ben voilà, ça a servi pour le bien. Mais parfois, c'est pas comme ça non plus que ça se passe. Et même quand c'est pas comme ça que ça se passe, c'est vrai, même quand la perspective humaine n'est pas suffisamment large et profonde pour s'en rendre compte. On peut penser à Étienne, que j'ai cité tout à l'heure, qui a été lapidé à Jérusalem. Ce moment, c'est un moment terrible de l'histoire de l'Église. Le christianisme est considéré comme une secte marginale, une espèce de dissidence du judaïsme, qui sera bien vite écrasée par les Romains. Jusqu'ici, les persécutions étaient verbales, parfois physiques, mais avec Étienne, là, on passe un cap, il l'assassine. Et la persécution s'accélère à tel point que le livre des Actes nous dit que tous les disciples fuient de Jérusalem et s'éparpillent dans toute la Judée et la Samarie. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais enfin, vous êtes déjà relativement peu nombreux. Ils assassinent l'un des vôtres. Les menaces sont tellement grandes que vous ne pouvez que fuir. Et donc, vous passez de peu nombreux à seuls. Vous êtes seuls. Vous êtes loin de chez vous. Vous êtes dispersés partout. Pour moi, ce moment, c'est l'un des moments les plus désespérés de toute l'histoire de l'Église. Est-ce qu'il ne serait pas logique, à ce moment-là, que les disciples essaient de se cacher ? Ils ont fui, après tout. C'est que leur vie est en danger, c'est qu'ils ont peur. Moi, à leur place, je me cacherai. Est-ce que quelqu'un serait surpris même de les voir perdre la foi en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Qu'est-ce qui nous arrive ?» Et pourtant, dans ce moment de désespoir, ce que font les disciples, c'est qu'ils continuent de témoigner du Christ. Dans la souffrance, dans la persécution, ils continuent de témoigner du Christ. Ils continuent de chercher la volonté de Dieu et de la mettre en pratique dans les circonstances qui sont les leurs. Et alors, cette fuite désespérée vers la Judée et la Samarie se transforme en quelque chose de radicalement différent. Le spectacle auquel les persécuteurs vont être confrontés, ça n'est pas l'extinction de la foi chrétienne, c'est son expansion spectaculaire. Partout où les disciples passent, l'Évangile est annoncé, des gens se convertissent. Alors, est-ce que Dieu a voulu cette persécution ? Ben, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On pourrait penser aussi à l'apôtre Paul, qui était présent à la lapidation d'Étienne, qui était d'accord avec cette lapidation. Qui aurait pu imaginer qu'il deviendrait peu de temps après l'apôtre des non-juifs, parcourant le monde pour annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité ? Je ne suis pas sûr qu'Étienne pouvait imaginer ça quand il se faisait lapider devant Paul. C'est hors de la portée humaine, je crois, de voir ça. Mais Étienne a quand même vu des choses, il avait des yeux pour voir. Voici ce qu'il a vu, acte 7, 55, on lit. « Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors à mon petit niveau, j'ai aussi vu comment Dieu peut faire des miracles au moyen de la souffrance de l'un de ses serviteurs. Je me suis converti en voyant un chrétien, un ami proche, souffrir toute une année à cause d'un cancer et finalement mourir. Et ce qui m'a bouleversé, c'est qu'il est mort sans renoncer à sa foi, ce qui pour moi était une aberration, quoi. Vu ce qu'il traversait, je me suis dit, si ça, c'est pas une preuve que Dieu n'existe pas, je sais pas ce que c'est, eh bien, lui n'a pas renoncé à sa foi. Et je me suis dit, y a un truc que j'ai pas compris dans ce qu'il croit. Ça a été pour moi le témoignage le plus puissant que j'ai vu jusqu'ici, et pourtant, j'en avais vu des choses avec cet homme, il avait un témoignage de vie incroyable, plus qu'il n'en faut pour rencontrer Jésus. Mais ce qui a finalement brisé la dureté de mon cœur, ça a été de voir sa persévérance dans la foi au milieu de la souffrance. Et c'est bizarre de le dire comme ça, c'est sans doute pas tout à fait juste, mais il a fallu que ce frère souffre une année entière pour que je sois sauvé. En cela au moins, toute proportion gardée évidemment, mais en cela au moins, Dieu l'a fait conforme à l'image de son Fils. Jésus a eu à souffrir beaucoup pour que je sois sauvé. Dieu m'a fait la grâce de voir à travers les souffrances et la foi inébranlable de cet ami, les souffrances du Christ et le salut qu'il apporte. C'est comme ça que m'a été annoncé l'Évangile. C'est pas exactement la méthode douce, en tout cas pas pour celui qui me l'a annoncé. Il y a une relation entre souffrance et bénédiction. C'est mystérieux, et même de le dire comme ça, j'ai conscience que c'est violent, en fait. Mais elle existe. Notre salut s'est fait au prix de grandes souffrances, au prix de la passion du Christ. et la bénédiction a été à la mesure de la souffrance qui nous l'a offerte. On pourrait continuer longtemps sur ce thème. Je vais me limiter à faire remarquer une chose qui me semble intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul défend son ministère des attaques de certains adversaires qui se présentent comme des serviteurs du Christ. Et Paul aurait pu dire, sans mentir et sans honte, ils sont serviteurs du Christ. Moi, bien davantage. J'ai implanté plusieurs églises. J'ai eu une expérience de conversion spectaculaire. J'ai voyagé au bout du monde connu pour annoncer l'évangile. Beaucoup se sont convertis par ma prédication. Vraiment, j'ai rien à prouver à personne au sujet de mon engagement avec Dieu. Mais au lieu de ça, Paul dit, je vais vous le lire, c'est en 2 Corinthiens 11. Vous pouvez relire ça chez vous si vous voulez, 23 à 30. Il dit, ils sont serviteurs du Christ. C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux. Car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. C'est des coups de fouet, ça. 3 fois, j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits, et sans parler du reste, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela ne me brûle? Oui, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Pour Paul, la persévérance dans l'épreuve semble bien être une marque du disciple du Christ plus probante que toutes ses réalisations, toutes les réalisations humaines qu'il a pu faire, aussi spectaculaires et accompagnées par l'Esprit soient-elles. Alors, gardons confiance en Dieu. Gardons confiance en Dieu, qu'il nous sorte ou non de nos difficultés. Gardons confiance en Dieu parce que c'est ça, être disciple du Christ. Gardons confiance dans le fait que toute chose concourt à notre bien, c'est-à-dire que tout sert à nous modeler à l'image du Christ, de manière à ce que notre vie porte du fruit comme celle du Christ. Et il est possible qu'on n'ait pas la vue assez ample pour voir ce fruit. Étienne n'a pas vu la conversion de Paul. Mon ami n'a pas vu ma propre conversion. Et il est possible que nous, nous rejoignions aussi le Seigneur sans voir le fruit des graines que nous avons pourtant semées, souvent sans le vouloir, sans même le savoir, par le simple fait de vivre notre foi, de vivre en chrétien au quotidien. Mais c'est la volonté de Dieu qui se fait. Et quoi qu'il nous arrive, nous sommes dans sa main et nous contribuons dans la situation où nous nous trouvons à l'avancée de son royaume. Soyons-en convaincus. Je vais prier.